tous. Dans notre deuxième session du jour, présentée par Pascal Bonaz, nous allons voir comment exposer concrètement les églises à la culture apostolique. Allez, bonne écoute!
Alors cet après-midi, oula, vous êtes loin. Vous êtes loin. Alors j'aimerais juste donner deux infos avant d'aller dans le vif du sujet. Puis je vous expliquerai comment ça va se découper cet après-midi. Ça va être différent de ce matin. Juste deux infos. J'ai fait allusion en fin de matinée au mentorat. Peut-être ça vous parle, peut-être ça ne vous parle pas du tout. Peut-être vous dites que c'est dans l'air du temps. Une précision. Je pense que c'est quelque chose qui existe dans la Bible. Je ne veux pas vous en parler longuement maintenant, ce n'est pas l'objet. Mais je pense de plus en plus que c'est une chose qui est demandée, qui est souhaitée et qui est pratiquée dans les églises et dans l'accompagnement des ministères. Pour être très, 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 très simpliste en définition, le coaching va vous aider à travailler sur ce que vous faites. C'est beaucoup orienté vers le faire, vers les projets. Le mentorat travaille sur l'être. Voilà, juste une nuance. C'est-à-dire que les mentors, moi, ça fait 10 ans, plus ou moins, que j'ai été propulsé là-dedans pour accompagner donc des gens en mission. C'est là que ça a commencé. Même des pasteurs qui prenaient des relais d'église en France ou des jeunes implanteurs d'église. C'est surtout avec des jeunes implanteurs d'église que j'ai commencé. Et puis, j'ai rencontré d'autres qui en faisaient. Entre autres, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Alain Stamp, qui est un maître à penser côté France là-dessus. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avance. J'étais avec lui la semaine dernière parce que je fais partie d'une communauté de mentorat, de mentors, donc qui est initiée à la fois par le CNEF et par d'autres personnes. On est en phase expérimentale. On est dans une communauté de mentorat alpha pour former d'autres mentors derrière. Donc, le principe du mentorat, c'est de le vivre pour le transmettre. Si on ne l'a pas vécu... Moi, je fais partie d'une génération spontanée. C'est-à-dire que moi, le mot mentor, il y a... Quand on a été dans le ministère, en mission, ça n'existait pas, en tout cas pas dans le jargon chrétien. Et on a appris en route que ça existait, puis on s'est rendu compte un jour qu'on en faisait malgré nous. D'où l'importance de se former derrière. Donc pour être court là-dessus, pour en avoir parlé avec l'équipe du réseau, je propose en tout cas ceux qui veulent aller plus loin, deux choses, deux façons de faire. En août prochain, Donc, moi, il y a des personnes que je mentorise, si je peux dire le mot comme ça, depuis plusieurs années. On fait un Zoom tous les mois, un Zoom d'une heure tous les mois. C'est pas long, hein, mais voilà, on a une façon de faire. Et pour la première fois, on va se retrouver ensemble dans un même endroit, donc pour 48 heures, d'un mercredi 14 heures au vendredi 14 heures. Donc dans un endroit comme une retraite, hein, et on va expérimenter ça. S'il y a des gens qui, même si vous n'avez jamais vécu ça, mais vous voulez vous immerger dans la chose, on est en petit groupe, maximum 10, et j'ai encore 2 places. Donc s'il y a des personnes que ça me motive. Alors pour l'instant, on est 6 ou 7, on n'est que des hommes, je vous le préviens. Ce n'est pas un choix délibéré, mais il se trouve que les personnes, il y a des gens qu'on mentorise en couple avec Fabienne, mais là, j'ai choisi d'être avec des hommes pour la première, parce que c'est la phase expérimentale. Sinon, à partir d'octobre, certainement, on va mettre en place une formation par visio sur le mentorat. Donc, si soit l'un, soit l'autre vous intéresse, ou vous voulez en savoir plus, je ferme maintenant la parenthèse là-dessus. Mais c'est pour hommes et femmes. Hein, c'est là, la communauté qu'on fait au mois d'août, c'est juste que des frères. Mais la formation qu'on va faire et ce qu'on fait aussi, c'est avec des couples. Donc, il n'y a pas de problème s'il y a des gens, des femmes, des épouses ou des femmes seules. Hein, il n'y a aucun problème pour ce domaine-là. Ça va? C'est assez clair? Ok, si vous en voulez plus, ben on en parlera en tête à tête. Et puis, un deuxième point, c'est qu'on a un groupe, un groupe par Zoom, hein, qui s'appelle Antioche en campagne. Il y en a plusieurs ici qui, ben, quasiment tous ceux qui sont dedans, ils sont là. C'est une communauté de partage, hein, j'allais dire, d'expérience qu'on vit aussi par Zoom tous les 2 mois. Donc, c'est un jeudi soir. De 19h30 à 21h, ça dure 1h30. C'est pour progresser ensemble pour ceux qui sont dans le milieu rural. Donc le milieu rural, ça va d'un hameau de 1 habitant à quelques milliers d'habitants. Il y a des gens d'Épernay, donc ça fait 20 000, c'est un peu à cheval. Mais voilà, c'est pour avoir du partage d'expérience et puis parfois des gens qui interviennent de l'extérieur. Donc ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, je vous enverrai, j'ai regardé les dates déjà, je vais vous envoyer ça sur le groupe. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent se joindre, pareil, vous venez me voir, je vous ajoute sur le groupe WhatsApp, c'est facile. C'est pas de l'enseignement, c'est pas de la conférence, c'est vraiment. Alors des fois, il y a un petit apport biblique où il y a quelqu'un qui partage son expérience, mais c'est surtout de l'échange pour réfléchir à des problématiques qui concernent le milieu rural. Voilà, si quelqu'un veut ouvrir Antioche en ville, vous serez le bienvenu, mais c'est pas moi qui le ferai. Mais ça peut être intéressant aussi hein, de confronter ce qu'on vit dans différents milieux. Voilà, c'était les deux choses que je voulais dire en préambule. Et cet après-midi, donc, Michel s'est sauvé parce qu'il a oublié. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont lu ce livre ? Donc, c'est Colin Urquhart, les étudiants, je crois que vous travaillez dessus. Donc, on est allé en chercher pour qu'on en ait tous, parce que tout à l'heure, donc, on va travailler à partir de ce bouquin-là. Donc, on va travailler en deux temps. J'introduis le sujet, alors je serai moins long que ce matin. Je vais juste vous donner quelques points d'introduction sur qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de culture apostolique. Et puis après... Donc sur la base du livre, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, mais vous aurez les éléments sous les yeux. On va essayer de réfléchir plus concrètement. Vous allez essayer de réfléchir par table toujours. Comment est-ce qu'on peut mieux, là où on en est dans notre église, comment est-ce qu'on peut mieux appliquer ces valeurs-là ? Voir aussi qu'est-ce qui marche déjà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est positif. Ça peut encourager d'autres qui n'ont pas commencé. Et puis là, peut-être où le bas blesse, ou peut-être où on a beaucoup de progrès à faire par rapport à cela. Voilà le menu, en gros, hein, pour cet après-midi. Ça va ? Ça va ? OK. On y va. Donc, exposer les églises et les membres, j'ai appelé ça, à la culture apostolique. Si vous voulez, l'intention qu'on a eue avec l'équipe en réfléchissant à cela, c'est de se dire, pour beaucoup de gens, ils pensent qu'ils sont apostoliques dans l'impression qu'ils ont compris qu'est-ce que c'est que les cinq ministères, et puis que peut-être il y a une équipe, c'est encore mieux s'il y a une équipe des cinq ministères qui fonctionne. Donc les cinq ministères, c'est ceux d'Éphésiens 4, 11, je rappelle, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur et docteur. Donc, évidemment, il y a ça comme point de départ, mais on est loin du but. Ça, c'est juste un élément. Et comme ça a été rappelé à maintes reprises déjà ce matin par Michel, le rôle des ministères, donc, c'est pas de se mettre devant, c'est pas de faire une culture ou un culte, parce que je rappelle que culte et culture, c'est la même origine, un culte de ces ministères-là, mais donc leur but, et vous l'avez dans Éphésiens 4, 11 à 16, je ne veux pas le relire, mais c'est de former un peuple apostolique. J'ai souvent, bon, il y a certaines églises dans lesquelles je suis allé, mais j'ai souvent donné cet enseignement à un peuple apostolique. Et pour moi, la meilleure démonstration, hein, c'est ce qui se passe à Jérusalem après la persécution. Hein, il nous est dit, si vous avez souvenir, dans Acte 8, il y a après le martyr d'Étienne, il est dit que l'église a été dispersée. Hein, et Acte 8, verset 4, nous dit, ils sont allés de lieu en lieu, ils témoignaient de Jésus. Et c'est comme ça que des églises ont ouvert. Ça veut dire qu'à un moment, comprenez bien, si on va plus loin, acte 11, on voit qu'il y en a qui sont... Donc certains sont restés dans le périmètre autour de la Judée. Certains sont montés en Galilée, donc ils étaient toujours en territoire juif. Mais si vous regardez un petit peu plus loin dans acte 11, il est dit à l'issue de la persécution d'Étienne, donc on revient à ce moment-là, c'est là qu'il y en a qui sont montés à Antioche. Donc à plus de 500 km en ligne droite au nord. Là, ils étaient en territoire païen. Et on voit donc que la persécution a fait que les chrétiens ont été dispersés. Mais au lieu de se taire, au lieu de se cacher, au lieu de se dire « Ah bon, on était des nouveaux convertis un peu foufous, maintenant on va être sages et on va être beaucoup plus prudents, etc. » Ils n'ont pas du tout adopté cette mentalité-là. Ils ont témoigné, et c'est eux qui ont ouvert les églises. À Antioche, c'est eux qui ont été à l'origine de l'Église, même si plus tard Barnabas est arrivé, Paul, etc. Mais on voit donc, c'est ça qui marque un peuple apostolique. C'est-à-dire que, imaginez, j'aimerais juste vous poser la question, je pense qu'on a eu un petit aperçu au Covid, mais imaginez que demain vous n'êtes plus là, vous, pasteur. Que font vos membres ? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Demain, l'Église est décapitée ou on met tout le monde en prison parce que tout d'un coup, on ne veut plus d'Église évangélique. Que vont faire vos membres ? Enfin, les membres de votre assemblée. Je n'aime pas dire vos brebis. Hein. Je trouve que c'est... J'aime pas trop le terme. Je trouve qu'il est... J'aime pas utiliser ce mot-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire sans vous ? Vous imaginez ces chrétiens de la première Église ? Non seulement ils n'avaient plus les apôtres pour les guider, ils n'avaient plus leur conducteur spirituel, mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils n'avaient plus d'argent, plus de métier, plus de situation, plus de famille, plus rien. C'était des réfugiés, des exilés. Hein. Mais par eux, par leur témoignage, parce qu'il y avait en eux la culture, hein, la semence apostolique était entre eux, en eux, donc ils n'ont pas attendu qu'il arrive un évangéliste pour évangéliser, ils y sont allés. Et ils ont semé. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait un berger ou un pasteur nouveau pour envoyer par les apôtres, parce que les apôtres, de toute façon, ne pouvaient envoyer personne à ce moment-là, pour commencer des communautés, etc. Donc, vous voyez, c'est un peuple qui, une fois qu'il n'a plus ses points de repère habituels, c'est un peuple qui continue et qui va de l'avant dans ce qu'ils ont reçu. Ça va ? OK ? Donc c'est important de se poser cette question. Et si demain on n'a plus des... Vous avez vu au Covid, du jour au lendemain, alors évidemment, à l'époque, ils n'avaient pas WhatsApp et Zoom pour faire leur culte en différé et en visio. Mais si nous arrivait un truc comme ça et qu'on est perdu de tous nos points de repère chrétiens et évangéliques habituels, qu'est-ce qu'on devient ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Je vais vous donner simplement quelques points que je vais survoler parce que l'enseignement est très long. Mais d'abord, deux rappels. Premièrement, le mot apostolique veut dire envoyé. Donc, quand on parle d'une église de nature apostolique, ça veut dire à la base une église qui envoie, une église qui sort, une église qui a une vision pas seulement de l'intérieur, mais qui a plus une vision de l'extérieur, sans négliger l'intérieur, bien sûr. Mais c'est une vision, c'est une église donc qui a cette vision-là. Je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup. Jésus a dit, hein, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et puis il l'a dit maintes fois, à plusieurs reprises, c'est repris dans l'Évangile, au cas où on n'aurait pas bien compris la première fois. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Je vais sur des choses très simples, très vite, de la culture. Qu'est-ce qu'on met derrière la culture apostolique ? Pareil, c'est un schéma que vous avez déjà vu à Pâques l'année dernière, je crois, hein, où donc on voit que ce qui forme une culture, c'est les valeurs, le langage et les comportements. Et cet après-midi, on parle surtout de valeurs. Rappelez-vous, on a défini nos valeurs en tant que réseau, parce que c'est le cœur, hein, c'est de nos valeurs que vont découler les choses derrière. Le langage, les mots qu'on utilise, les définitions de mots, et nos attitudes et nos comportements extérieurs. Ça va encore jusqu'ici ? C'est des choses, hein, je pose juste des points de définition, mais ça peut vous aider tout à l'heure pour vos réflexions, hein, sur le travail. Ensuite, une petite différence, mais alors, hein, entre église, une église qui a une vision apostolique et une église qui a une vision seule, enfin plutôt pastorale, ecclésiocentrée, on va dire. Hein, je fais pas d'hierarchie, hein, c'est pas de dire ouais, on est super les apostoliques et puis ceux qui sont trop pastoraux, ils sont pas bons. C'est pas ça. C'est juste une question de perspective qu'on regarde. L'église pastorale est principalement tournée vers l'intérieur. Ça veut dire le soin. L'équipement aussi, bien sûr, former les gens, etc. Mais on forme surtout dans cette église-là des gens pour l'intérieur. Moi, je me replonge 44 ans en arrière. Bien sûr, on allait évangéliser, on sortait, etc. Mais les gens qu'on formait à l'intérieur de l'église où on est né à Grenoble, c'était pour l'intérieur. Mais on n'avait pas du tout de perspective qu'il pouvait y avoir des ministères dehors. Hein, il y avait certes des évangélistes, mais des gens dans la société, comme on va le voir, ou comme vous avez vu hier, etc., c'était pas. Alors qu'apostolique, on est bien sûr tourné vers l'intérieur, on veut des églises en bonne santé, on relève, on réhabilite et on restaure les personnes abîmées qui sont sauvées, mais hein, vous n'êtes pas connecté. C'est quoi ça ? C'est le truc là, non ? Vous voyez quelque chose, vous ? Ah ouais ? Mais moi, j'ai plus rien. Bon, c'est pas grave. Vous êtes toujours sur l'église pastorale et... Pourquoi il me dit que je ne suis plus connecté ? Attendez, c'est juste un petit truc. Voilà, c'est parti, c'est revenu, c'est bon. Donc, l'église apostolique tournée vers l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur, parce qu'on veut envoyer, parce qu'on veut toucher le monde. Aussi, une petite nuance entre église charismatique et apostolique. C'est ça que vous avez ? Ouais, ça marche. Une église charismatique, parce qu'on est tous des charismatiques ou pentecôtistes, on met en valeur surtout les dons, la manifestation des dons, et en général des dons spirituels, donc c'est une bonne chose, pour nourrir, édifier, encourager, pour le bien des personnes. Alors que dans la vision apostolique, on met aussi en valeur les dons de l'esprit, mais aussi les ministères qui sont donnés pour édifier le corps. On a le souci autant du développement de l'expression des dons chez les chrétiens, etc., mais aussi la formation de ministères. Et bien entendu, sans négliger, c'est pas l'un ou l'autre, sans négliger chez les uns et les autres le fruit de l'esprit. C'est pas les dons ou le fruit, c'est les deux. C'est pas le don ou les ministères et le fruit de l'esprit, c'est tout en même temps. Ça va encore jusqu'ici ? Voilà, c'est des choses simples pour fixer le cadre. Je vous donne donc 7 points, enfin à mon sens, hein, 7, j'ai résumé en 7 points des caractéristiques d'une église apostolique, d'une culture apostolique. Et puis après, je vous citerai les 5 autres points, simplement je les citerai, qui sont donnés dans le livret de Colin Urquhart, qui sont tout à fait à la fin du bouquin. Donc, premier point, des croyants formés pour des percées spirituel. Je pense que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on voit l'impact qu'a eu la persécution sur la première église. Donc ça veut dire que on a donc cette vision de l'extérieur, du salut des gens perdus, mais plus que, pas seulement du salut des gens, mais de la constitution de communautés nouvelles, locales, d'implantation. On a le souci de toucher le monde qui est autour de nous. Et donc, c'est pas seulement des ministères isolés qui font cela, mais c'est quelque chose qu'on communique aux membres. C'est vraiment dans l'ADN de la culture. Et donc, qu'on soit dans un temps favorable, où on peut travailler librement, ou dans un temps moins favorable, parce qu'il y a une crise politique, parce qu'il peut y avoir ceci, cela, mais on a toujours cette perspective-là. Ça n'ira pas toujours forcément au même rythme, mais on a cette mentalité, on ne se satisfait pas simplement, même si notre église a doublé l'année dernière, même si on a beaucoup baptisé, etc., on cherche toujours à atteindre des nouveaux domaines qui sont autour de nous. Ça, c'est la première caractéristique. Il y a beaucoup à dire, mais je vais vite. C'est juste pour vous donner des pistes, pour vous faire réfléchir là où vous en êtes, là où nous en sommes. Deux, ce qui est au centre, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire que dans une église qui a cette nature apostolique, on peut dire, je résume ça comme ça, l'église, c'est l'instrument. Bien sûr, c'est comme le dit Colin Urquhart, c'est Jésus qui bâtit son église et c'est nous qui prêchons le royaume et qui contribuons à le faire avancer. L'église est l'instrument actuel privilégié pour l'extension du royaume. Mais le but final, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire que dans une église qui est orientée au royaume de Dieu, donc on insiste sur la seigneurie de Jésus. Je vous rappelle juste que dans le Nouveau Testament, Jésus sauveur, Jésus qui sauve, c'est utilisé 16 fois. Jésus qui est Seigneur, c'est utilisé 600 fois. Alors ça ne veut pas dire qu'il est plus Seigneur que sauveur, il est les deux. Mais vous voyez l'insistance sur la seigneurie de Jésus, dans tous les domaines. Bien sûr, au milieu de nous, dans nos vies, etc. Mais la seigneurie aussi sur ce qui est autour de nous, sur ce qui est à l'extérieur. Donc, j'ai noté ceci, c'est des points de repère, cette vision du royaume de Dieu, on a une vision large du corps de Christ local. C'est-à-dire qu'une église qui a cette culture apostolique, elle ne peut pas se contenter de travailler elle toute seule. Elle a conscience qu'il y a d'autres chrétiens autour, il y a d'autres assemblées dans le périmètre, donc on va chercher, autant que faire se peut, la communion avec eux, éventuellement la collaboration pour qu'on puisse aller plus ensemble en avant. Donc c'est une église qui a une implication locale, régionale, mondiale. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, même si l'Église est petite, moi je le dis souvent, avec ma femme, on s'est converti, à la base à Grenoble. Donc, c'était une Église qui avait à l'époque 250 personnes au moins. Mais quand je me suis marié, j'ai rejoint Fabienne à Bourgoin-Jallieu. C'était une implantation de Grenoble. Pour tout vous dire, quand je l'ai rejoint, donc en 83, l'Église avait 3 ans, on était 15. Et 3 ans plus tard, on était peut-être 20-22 membres à peu près fixes, mais on a été le premier couple à partir en mission. Pourtant, l'Église n'avait que 22 personnes. 20 hein, à peu près. Hein. On est parti en mission. Et puis, 2 ans après, le pasteur lui-même, vous le connaissez, c'est Jean-Marie Ribet, est parti au Tchad. Et encore 2, l'Église n'avait pas beaucoup grandi. 3 ans après, un troisième couple est parti dans un orphelinat au sud du Tchad, à Koumra. Bref, une Église qui n'avait même pas 30 personnes, elle avait 3 couples, 3 familles en mission. Donc, la vision mondiale missionnaire ne dépend pas du nombre. Ça, c'est ce qui est semé. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai toujours retenu ça comme leçon. Quand c'est donc Jean-Marie Ribet qui a été le premier pasteur de cette église, donc il venait de Grenoble. Et quand il l'a ouvert, il a dit dès le départ, dans notre ADN, 10% de nos finances, ça part en mission. Et à l'époque, Grenoble n'était pas du tout encore engagé en 80 avec le Centrafrique ou avec le Tchad, etc. Et je me rappelle, moi, parce que je suis arrivé tout de suite après, les 10% partaient soit à Portes Ouvertes, qui existaient déjà, soit à une autre mission qui s'appelait Porte de l'Espérance, qui travaillait dans les pays de l'Est, puisque c'était avant la chute du rideau de fer. Hein. Donc c'était encore au temps où on passait des Bibles, etc., en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, etc. Donc voilà, simplement, il y avait une ADN missionnaire qui avait été posée dès le départ. Et quand on sème ça déjà financièrement et dans l'enseignement, un jour ou l'autre, il y a des gens qui partent. Je l'ai dit souvent, excusez-moi, je prêche une minute. Mais Jésus a dit, priez le maître d'envoyer, la moisson est grande, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, ils ont certainement prié, et puis vous allez le verset d'après, parce qu'on change de chapitre. Alors, souvent, on s'arrête là, mais le chapitre d'après, et Jésus les envoya deux à deux. Moralité, quand vous commencez à prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, à un moment, Dieu va vous dire, c'est bon, stop. Arrête de prier, tu es l'exaucement. Pars. C'est dangereux de prier pour ça, comme ça. Donc je vous dis ça simplement en passant. Je finis ma prédication et je continue. Donc une implication dans tous les domaines, régional, mondial, et puis une implication dans tous les secteurs de la société. Alors c'est vrai, selon la taille de l'Église, on ne peut pas tout faire. Mais Dieu va nous donner des dons spécifiques qui vont toucher l'éducation ou le monde des arts ou le sport ou j'en sais rien, ou la politique ou le social. Bref, vous avez eu, je pense, quelque chose de plus clair, de plus approfondi sur la question. Donc c'est le deuxième caractère, une vision du royaume de Dieu. 3, une église qui vit la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire le surnaturel. Et force est de constater que, j'en parlais même hier, puisqu'avec Michel, on a fait une longue route parce qu'on avait un rendez-vous, mais on a besoin de plus de surnaturel dans nos églises. Merci d'avoir approuvé avec tant d'enthousiasme. Je répète, on a besoin de plus de manifestations de la puissance de Dieu. Hein, on sait bien que c'est pas les miracles font pas tout, mais réel. Je vous dis pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, le diable dans ce pays nous défie. Avec l'ésotérisme, avec les guérisseurs, avec tous ces trucs qu'on a aujourd'hui que les gens vont consulter, on est défié, entre autres, sur le terrain de la puissance de guérison. Pareil pour la libération démoniaque. C'est des trucs. Hein. Et donc, je pense, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, il y a plein de versets qui nous montrent la puissance et l'impact des miracles qu'il y avait dans la première église. Hein. Il est même dit que les 12, hein, il est dit par les mains des apôtres, acte 5, là, ils faisaient beaucoup de miracles. Les gens n'osaient même pas aller s'asseoir à côté d'eux, tellement il y avait de la puissance. Quand je pense que Pierre marchait dans Jérusalem, vous vous rendez compte, Jésus, lui, il fallait toucher son vêtement. Pierre, c'était son ombre qui guérissait. Waouh. Alors, on n'est pas tous appelés à faire ça, hein. on est d'accord. Paul, lui, priait pour les mouchoirs et puis ça guérissait les gens à distance. Hein. Mais la vraie guérison. Moi, je vous avoue très honnêtement, hein, dans le milieu où je vis en campagne aujourd'hui, je suis défié sur ce terrain-là parce que les gens, ils ont toutes sortes de maladies, de trucs. On a de plus en plus de maladies inexpliquées. de trucs, maladies orphelines et tout ce que vous voulez, des trucs qui n'ont pas de... Et il nous faut cette puissance de Dieu. J'ai une fille qui a été guérie de la fibromyalgie. Ça, c'est un truc. Hein. Franchement, elle a traîné ça. Elle a été diagnostiquée, je pense, au bout de 7-8 ans qu'elle avait ça. On ne savait pas ce que c'était. Elle l'a traîné encore 5 ans, 6 ans. Et puis, à un moment, paf, c'est venu avec, en priant avec son mari. Hein. Nous, on avait prié plusieurs fois avant. Et puis, c'est parti. Aujourd'hui, elle a une pêche terrible. Elle a 36 ans. Pour dire que Dieu fait encore ces choses-là. Donc, je pense qu'il doit y avoir cette soif chez nous de réellement avancer dans ces choses-là. 4, la culture apostolique donne priorité aux relations. On l'a déjà dit suffisamment, mais j'insiste juste sur un point. Le peuple apostolique est un peuple qui a conscience de la valeur de l'alliance. Hein, dans le domaine relations, j'insiste sur l'alliance. Entre ministères, nous sommes en alliance. Dans nos façons de fonctionner, hein, on veut vivre des relations vraies. On l'a mis dans nos valeurs authentiques, droites, etc. Hein, et une alliance, c'est plus fort qu'une collaboration. Ça va bien au-delà. Hein. On a le souci des uns des autres et de toutes ces choses-là. Donc, l'importance et la qualité des relations. 5e point, c'est une église prophétique. Qui a un caractère prophétique. On ne peut pas séparer les deux, apostolique et prophétique. Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là? Ça ne veut pas dire qu'on prophétise à tour de bras tout le temps. Certes, il y a les dons, il y a les ministères, hein, mais c'est une église, rappelez-vous de l'un des aspects de la prophétie, c'est une église qui exprime ce qui est sur le cœur de Dieu, en parole et en action, dans le temps présent. Je rappelle que l'une des fonctions des prophètes, qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'était d'actualiser la loi, la parole écrite, pour maintenant, pour la situation du peuple. Donc une église qui a un caractère prophétique, un peuple prophétique, c'est un peuple qui non seulement prophétise, mais beaucoup plus par les paroles, mais dont la vie incarne la réalité de ce que Dieu veut maintenant. Ça va beaucoup plus loin que simplement de la déclaration. C'est important, la déclaration, mais on vit les buts de Dieu, on démontre qui est Dieu maintenant face à une société hostile, indifférente, tout ce que vous voulez, mais on l'incarne. Le prophétique n'est pas juste une question de dons et de paroles prononcées, ça a son rôle, mais c'est aussi une question d'incarnation. On incarne dans le réel la réalité du royaume de Dieu face à un monde qui est complètement à côté. Donc ça inclut le prophétique et donc ça nous amène au 6e point, une église qui est pertinente, qui est incarnée dans le temps présent. Ce n'est pas une église qui vit sur les gloires passées, hein, donc ce n'est pas une église qui se contente de l'institution ou qui reproduit certaines choses. Alors, il y a une bonne tradition, comme on nous l'a dit hier, ou on l'a dit Henri Blocher, hein, si je me rappelle bien. Il y a des bonnes choses qui sont dans ce domaine-là, mais ça va beaucoup plus loin. C'est une église donc, qui est pertinente, qui sait, non pas qui se fond dans le monde, mais qui sait adapter ses formes et ses structures à la réalité du temps présent. Nous sommes sel et lumière dans l'environnement dans lequel nous sommes. Hein, vous voyez, c'est relié au prophétique, c'est relié aussi à cette vision du royaume de Dieu. Hein, c'est des choses qui découlent les unes des autres. Et puis, j'arrive à un 7e point. C'est une église qui développe une culture de leadership. Et on nous en a longuement parlé ce matin, la reproduction. Hein. Vous savez que vous avez déjà vu un baobab ? Oh, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû voir ça. Anatole, il en voit tous les jours, je pense, à Ouaga. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, à Dijon. Hein. Ça ne pousse pas. Il y a des leaders baobab. Il y a un leadership baobab. Vous savez la caractéristique ? C'est très haut, il y a beaucoup de branches, mais il n'y a rien qui pousse dessous. Alors que vous avez d'autres leaders qui sont plutôt saules. Les saules, vous savez, les pleureurs, là, ou qui sont comme les trembles. Ils poussent, mais dessous, il y a plein d'autres végétations qui peuvent pousser, d'autres types de plantes, etc. Vous voyez la différence entre le baobab et le saule ? hein, ou le tremble. Le baobab, bon, il peut être très haut, il peut avoir beaucoup de ramifications, mais il n'y a rien qui pousse dessous. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal, je reprends ce que tu disais, il n'y a pas d'engendrement d'autres générations de leaders. Alors que dans l'autre cas, on génère non seulement d'autres sols, mais aussi d'autres types de plantes qui vont pouvoir pousser. Donc notre leadership doit pouvoir permettre à beaucoup d'autres de se lever. Regardez ce schéma qui parle de multiplication. Donc, quand on parle de culture de leadership, ça part de multiplier des disciples, puis des leaders, puis des groupes, puis des églises, pour arriver à des réseaux et à des mouvements. Hein, ça, c'est avec New Thing qu'on travaille là-dessus. Mais c'est vraiment le schéma. Mais la multiplication est à tous les niveaux. Vous ne pourrez pas avoir une multiplication de leaders si vous ne commencez pas par multiplier les disciples. Pas possible. Vous ne pourrez pas implanter des églises en grand nombre, multiplier, si on ne commence pas par une grande multiplication de disciples, parce que c'est d'eux que vont monter les leaders, et c'est là que vous aurez des implanteurs d'églises, c'est là que vous aurez des pasteurs nouveaux, des enseignants nouveaux, des évangélistes, etc. Vous voyez le développement. Donc je sais que ceux qui sont loin, je vais y mettre c'est un peu étroit à lire. Donc disciples, leaders, groupes et églises. Ensuite, réseau et mouvement. C'est toute une logique. Nous, on est là en tant que réseau, mais notre réseau pourra s'étendre si on travaille tous dans nos églises la multiplication à ce niveau-là. Comme nous, en tant que ministère, on doit travailler à la multiplication de ministères. Est-ce que c'est clair ? Ça va ? C'est ça qu'on appelle une culture de leadership. Ce n'est pas seulement dire qu'on donne des titres à des gens à certains moments. Ça, c'est juste le vernis, ça. Mais c'est... Et puis d'abord, vous faites très attention avec les titres. Je suis d'accord avec ce que Michel disait ce matin. On donne des fonctions, mais avec un nom correspondant. C'est beaucoup plus réaliste. Mais vous voyez, c'est important de comprendre cette progression, de sans cesse renouveler le réservoir. Et donc du leadership en équipe avec des onctions spécifiques. Voilà, je vais très vite sur cette partie. C'est juste des pistes de réflexion. Ça. Mais vous voyez, sept caractères qui, à mon avis, alors ce n'est pas exhaustif. Je me souviens qu'à Grenoble, il y a une dizaine d'années, Steve Herita était venu. Steve nous avait fait un dimanche matin les 12 caractères de l'Église apostolique. Donc il y avait de ça, mais il y avait encore beaucoup de choses derrière. Donc selon les auteurs que vous aurez, vous aurez des choses plus ou moins concordantes ou rajoutées. Mais là, j'en ai retenu 7 donc pour nous, hein, pour la réflexion. Et puis, donc, si vous prenez le livre, à la fin, vous avez une partie dans laquelle Colin montre les 5 signes d'une église apostolique. Alors je vous les cite, et puis si vous les fouillez, vous irez regarder. C'est une église réveillée. Je parlais de surnaturel, des choses comme ça, ça se recoupe. Une église donc réveillée, comme la plupart d'entre vous cet après-midi, à cette heure-ci. Ensuite, il dit un peuple de percée, donc on l'a vu, je l'ai pris de lui. Ensuite, troisième point, une église qui exerce le gouvernement spirituel. Donc, moi j'ai parlé de culture de leadership, lui parle aussi de cette notion de gouvernement, il parle du gouvernement des équipes apostoliques, etc. Ensuite, une église qui porte des fruits multiples, donc une église qui grandit, qui se reproduit, qui multiplie, qui a toutes sortes de services qui s'étendent avec le temps. Et puis, dernier point, un peuple d'abondance, un peuple généreux. Un peuple qui vit la grâce, ce n'est pas une doctrine de prospérité, on est OK, mais une église qui vit ces choses-là dans le réel. Voilà, 5 caractères que vous allez retrouver dans ce livret. Est-ce qu'il y a une question ? J'ai fini là. Avant de vous mettre en... Je pense qu'on va reprendre les mêmes équipes que ce matin. Ça me paraît bien, les mêmes tables. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qui a été dit ? Je n'ai pas tout dit. Vous pourriez peut-être ajouter le point 8, le point 12 et le point 27. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas vous saouler toute l'après-midi. Donc, il faut qu'on puisse arriver à des choses concrètes. Est-ce qu'il y a besoin d'un éclaircissement ou vous n'êtes pas d'accord ? Vous avez le droit ? Non ? Alors, on va réciter les 7 points que j'ai dit. Vous vous en souvenez ? Alors, vous vous rappelez des points ? Qu'est-ce que j'ai dit le premier ? C'était ? Voilà, ceux qui ont pris des notes, ils sont avantagés. Hein. Des croyants qui ont fait une percée spirituelle, capables de percée spirituelle. Numéro 2. Voilà, vision royaume de Dieu, vivre et prêcher le royaume. 3. Puissance du Saint-Esprit surnaturelle. Hein. Le Seigneur confirmait sa parole. OK. 4. Relation, et en particulier alliance. 5. Prophétique, hein, non seulement qui parle, mais aussi qui vit les choses que Dieu veut pour le temps présent. 6. Pertinente avec le temps présent, incarnée, hein, pas désintégrée par rapport aux réalités du monde présent. Et 7. Une culture de leadership, hein, à tous les niveaux. Ça va ? Donc, je te laisse faire, Philippe, voilà.
Ok, les étudiants de l'école biblique cette année ont travaillé sur le livre de Colline. Donc je vais inviter les deux étudiants qui étaient prévus. Ils sont beaux quand même. Hein. Est-ce que je peux vous demander de nous dire ce que vous avez retenu du livre, qu'est-ce qui vous a apporté, peut-être nous faire un petit résumé. Je vous laisse gérer ce temps. Pendant ce temps-là, moi, je me branche.
Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Ça a repris vraiment la vision apostolique. Peut-être présenté juste Colline Urquhart, mais voilà, donc il est fondateur de Kingdom Faith à Horsham, donc en Angleterre, et c'est un grand leader apostolique. Donc, dans ce livre, en fait, il présente tout simplement la vision apostolique de l'Église biblique, qui est en fait apostolique dans sa nature. Et il fait justement cette distinction entre l'Église qui est plutôt traditionnelle, donc plutôt pastorale dans l'intérieur, et cette vision de l'Église apostolique, donc tournée vers l'extérieur. Donc il met l'accent sur tout simplement le fait de vivre la vision apostolique et vivre en fait la relation intime avec Jésus. Donc il y a toute cette partie avec le vrai cep, on est les sarments, mais c'est lui le vrai cep. Il y a l'image aussi du corps, et le corps doit dépendre de la tête. Et il prend aussi l'image du temple vivant. Voilà, on est des pierres vivantes au sein d'un temple vivant, et la pierre angulaire, c'est Jésus. Donc c'est vraiment dans cette vision-là que s'installe l'Église biblique et donc apostolique. Et il fait cette distinction aussi donc entre la vision qui est plutôt orientée vers l'intérieur, donc plutôt pastorale, et cette vision apostolique, donc plutôt tournée vers l'extérieur. Donc l'idée, c'est que vraiment dans tous les ministères, il y ait cette vision, cette incarnation de la vision apostolique et donc tournée vers l'extérieur.
Et dans la continuité, il préconise, ou en tout cas il propose pour une église biblique et apostolique, trois gros points en tout cas qu'on a pu retenir. La pluralité des ministères, c'est-à-dire apostolique, prophétique, évangélique, pastorale et enseignante, toujours dans le but d'aller et de faire des nations des disciples. Il parle aussi du fait que ce soit une histoire de cœur, dans le sens où les membres doivent être prêts donc, à accepter. Accepter quoi ? Accepter de prendre conscience de l'état actuel de l'Assemblée et des besoins. Aussi, être prêts à rencontrer l'opposition, être prêts à recevoir de Dieu et du Saint-Esprit les révélations qui sont nécessaires. Être prêts à travailler dans l'harmonie les uns les autres, être prêts à reconnaître ses erreurs aussi humblement. Être prêt à ne pas plaire à tout le monde et être prêt aussi à se placer sous une autorité. Et justement, par rapport à cette autorité, on peut parler de couverture apostolique. Il l'évoque aussi dans le livre, qui permet donc, selon lui, à l'Église de vivre ce qu'il ne pourrait pas vivre autrement. Pourquoi ? Parce que, puisqu'ils font partie d'un réseau plus grand que l'Église locale elle-même, elle sera couverte par une notion apostolique qui sera à même de diriger et de pouvoir connaître les perspectives spirituelles qui ne sont pas données à tout le monde. Et pour conclure, donc, le livre de Colline nous invite donc à utiliser ce livre pour évaluer notre église locale afin de voir où est-ce que nous en sommes par rapport à la vision biblique de l'église. Voilà, globalement. Et on va aussi citer une citation qui nous semblait intéressante par rapport à l'objectif même du livre. Il dit « Certains peuvent dédaigner l'idée de la tradition tout en ne se rendant pas compte qu'il ne faut que quelques années pour qu'une assemblée devienne traditionnelle. » Voilà.
Et puis juste peut-être aussi simplement faire le rappel, parce qu'il se base du coup sur l'Église primitive, et il rappelle en fait que l'Église, elle est sainte, donc c'est un peuple qui est mis à part par le sang de Jésus, qu'elle est catholique, donc pas dans le sens de la dénomination, mais dans le sens universel, que c'est vraiment le corps, et puis apostolique, justement, comme l'a dit Michel, envoyé. Donc voilà.
C'est ainsi que s'achève notre semaine des ministères du Réseau Antioche. Nous espérons qu'elle vous a plu et nous vous disons à bientôt pour une prochaine édition.